Découvrir Hélène Pedneau. Série de balados sur les écrits et la vie de Hélène Pedneau, regroupant des lectures d'œuvres et des extraits d'entretiens avec des personnes qui l'ont côtoyée. Deuxième série, La douleur des volcans. Cinquième épisode. La gourmande. Monsieur, vous m'avez dit d'aller me faire foutre, eh bien, c'est ce que j'ai fait. Votre suggestion était excellente au demeurant. J'aurais dû y penser moi-même. Vous m'en voyez confuse. Monsieur, si vous aviez vu cet animal. On aurait dit que chacun de ses muscles était un cheval de race pure qui courait la Camargue en sueur, de toute beauté. Il luisait constamment dans l'ombre, la pénombre et la noirceur aussi. Avec lui, je devenais nyctalope, je devenais une chatte en mâle de mâle. J'aurais rampé sous les voitures s'il avait fallu pour l'avoir. Je serais devenue une antenne pour capter toutes ces ondes et n'en pas laisser une seule vagabonder au hasard. J'aurais bu un lac entier s'il avait fallu pour l'avoir. J'étais prête à tout. Mais je n'ai pas eu besoin de recourir à ces extrémités parfois humiliantes. L'animal est venu tout seul manger dans ma main, en piaffant d'impatience. Monsieur, si vous aviez vu sa bouche, un temple où j'allais m'agenouiller à toute heure, carmélite mouillant mouillé sous sa langue, carmélite aussi sous ses paupières en peau fine, carmélite dans ses bras qui rappelaient les serres d'un condor qui aurait inventé le velours. L'animal, qu'il était beau. Il était appétissant. Je ne pouvais pas le voir sans que la salive se mette à s'affoler dans ma bouche. L'eau me montait aux lèvres. Je devais constamment aspirer le trop-plein et avaler. Avaler si je ne voulais pas périr noyée dans ma propre salive. Monsieur, si vous aviez vu son sexe, l'Empire State Building, j'exagère, dites-vous, comme vous manquez d'imagination. C'était l'une des raisons pour lesquelles je vous ai quitté d'ailleurs. Je parle de l'impression que j'avais quand il me remplissait toute. Des cheveux jusqu'aux orteils, parce que dire de la tête aux pieds, c'est encore trop vague pour décrire la précision du raz-de-marée. Il m'enfonçait les grandes orgues de Notre-Dame. J'en voyais des rosaces. Ah, vous trouvez que j'ai l'érotisme érudit ? Ignorant. Mais monsieur, avec cet animal, j'avais la science infuse. Je savais tout ce que je devais savoir. Je contenais toute la connaissance du monde. J'entendais des cantates splendides, inédites, que même le génie d'un Beethoven n'aurait pu inventer. Nous inventions la musique, monsieur, quand nos corps se greffaient l'un à l'autre, se confondaient. Nous inventions le monde, monsieur. Il en a bien besoin, le monde, d'être inventé. L'animal, qu'il était beau. Il était croquable. Si vous aviez vu ses mains, monsieur, ses mains dont les doigts étaient tellement habiles et mouvants qu'il pouvait multiplier son sexe par 10 quand il le souhaitait. Il m'a mise à l'index 1000 fois. Je devenais un livre défendu par lui seul, mon unique lecteur. Nous avons écrit tant de pages ensemble que nous sommes quasiment devenus encyclopédiques, monsieur. Encyclopédiques. Il faisait de moi ce qu'il voulait, l'animal. Il pouvait me retourner comme une crêpe, me rôtir à petit feu ou m'incendier jusqu'à la conflagration. Il pouvait me croquer comme une pomme, me laisser mijoter dans mon jus ou me faire déborder comme une eau qui bout à gros bouillon. Il pouvait tout faire avec moi parce que je le voulais. J'étais sa maîtresse. Vous pouvez prendre le terme au sens littéral. Je savais muscler son imaginaire et tout ce qui s'ensuit. Si vous aviez vu ses épaules, monsieur, des rambardes auxquelles je m'accrochais pour voir la mer et les mouettes à volonté. Régulièrement, je passais par-dessus bord quand une vague trop violente me soulevait. Il venait me chercher, à chaque fois, monsieur. À chaque fois, il plongeait pour me sauver au risque de sa vie. Ce n'était pas de simples vagues, c'était des lames de fond, des séismes venus des entrailles de la terre, expressément pour nous soulever, nous deux uniquement. La descente du Niagara en baril, monsieur, à côté de ces maelstroms, est une plaisanterie, une anecdote, sans plus. Ah. Être consumé par un désir d'épaule. C'est tellement soudain que ça prend toute la place. Dans la tête, entre les doigts, sous les paupières, au creux des cuisses, entre les seins, dans les gencives, au bout des cheveux, sous la plante des pieds. Dans le bruit des draps froissés et du sommier qui grince, des souffles qui se cherchent et du mur qu'on écorche, des mots qui se disent, bref. et ça sent le soufre, la flamme et le pétard mouillé. Mais je m'égare, monsieur. Vous ai-je parlé de ses fesses, des joues rondes au bas de son dos, des petits ballons gonflés d'air qui se durcissaient juste au bon moment, de ces belles fesses d'homme qui se creusent comme si des bouches les aspiraient par le dedans, comme si les muscles s'en retiraient par instant. Des fesses qui jouissaient, qui débordaient de jus sous leur peau de pêche, avec juste ce qu'il faut de rêche sous la langue pour que le plaisir pêche par alanguissement. Que vous dire de plus ? Je le buvais comme du petit lait, l'animal, en me pourléchant les babines, et je n'arrivais jamais à oublier la soif. Le lit était un désert et mon animal était l'unique oasis à des kilomètres à la ronde. Au matin, je léchais la rosée qui suintait de son corps avant que le soleil ne la sèche. Je faisais une course avec le soleil chaque matin et je gagnais, monsieur, à tout coup. Il ne voulait que de moi sur sa peau. Il ne voulait pas du soleil. Il était si sensible. Et pendant tout ce temps, je ne vous ai pas parlé de ses cheveux. Implantés un à un dans la mémoire de mes cuisses, des fils de soie venus d'Orient sur des chameaux langoureux, dans des coffres précieux, expressément pour me faire chialer de douceur. Quand je caressais ses cheveux, je comprenais d'un seul coup le sens du mot « légèreté ». Mais je l'oubliais aussi vite, quand ma main se retirait en éprouvant du chagrin. Saviez-vous qu'une main pouvait éprouver du chagrin ? Non. Vous ne pouvez pas savoir ce genre de choses, chauve comme vous l'êtes, chauve partout, au-dedans et au-dehors. L'animal, qu'il était beau, il était mangeable. Vous comprenez que je ne pouvais pas laisser se finir cette histoire comme toutes les autres. Je ne pouvais pas la laisser tomber dans le banal, laisser l'incandescence devenir une vulgaire chandelle éclairant péniblement au bout de sa mèche usée au milieu de son amas de cire fondue, puis durcie, puis fondue à nouveau. Nous aurions vieilli. Il n'arrêtait pas de me crier « Mange-moi, mange-moi !» quand le plaisir touchait à l'indicible et qu'il doutait de pouvoir remettre tous ces morceaux ensemble, de revenir à la vie après l'explosion. « Mange-moi, mange-moi » me disait-il. C'est ce que j'ai fait. J'ai réalisé son rêve et le mien aussi puisque je ne pouvais plus me contenter qu'il vive à l'extérieur de moi. Je le voulais en moi au complet. Et maintenant, monsieur, je vais le digérer pour le reste de ma vie. Ma... l'étendue infinie du plaisir. Ainsi, rien ne se perd qui ne soit créé. Je ne t'aime pas assez. Si je t'aimais assez, la terre tournerait rond et nous appartiendrait. Elle serait dans nos mains une pêche domptée, tellement rêche et juteuse et ambrée que nous pourrions choisir de ne pas la manger. Mais le désert est roi de chaque verre vide.
Elle se soucie tellement des autres. Elle entend dans notre voix quand on ne va pas bien. Et puis elle appelle le soir. Tu sais, c'est très Glenn Gould. Hein? Glenn Gould faisait ça aussi. Ped faisait ça. Puis une couple de fois, Ped a fait ça avec moi.
La marquer. Il y a des grues Caterpillar ou Pioneer. Il y a d'autres sortes de grues qui n'ont pas de marque de commerce, mais qui font quand même du commerce. Les deux font les trottoirs. Les unes ne sont pas péjoratives, les autres, oui. Il y a des magnétophones Sony, d'autres Hitachi. Il y a des aspirateurs Hoover, des pianos Steinway, des cuisinières qui s'appellent Bélanger, électriques ou en chair et en os. Il y a des automobiles Honda, Ford ou Renault. Il y a des téléviseurs Casar, des briquets Dupont, des stylos Bic, des réfrigérateurs Frigidaire, des mouchoirs en papier Kleenex, des caméras Kodak. Il y a des rasoirs Sunbeam, des téléphones Bell, des lunettes Christian Dior, des bandes magnétiques BASF, du papier Kraft, des disques Audiogramme, de l'eau Naya, des cigarettes Dumorier et des pilules Valium. Chaque chose en son nom, chaque chose en sa marque. On bague les oiseaux, on les compte, on les inventorie. On étiquette les arbres, on les compte, on les inventorie. On marque les orignaux, on les compte, on les inventorie. Il y a des migrations, des feux de forêt et des saisons de chasse. Je devrais pourtant, moi aussi, porter une marque. La tienne. Je cherche dans mes plis et replis. Je m'aide d'un miroir pour regarder derrière. Je suis allée jusqu'au rayon X pour voir en dedans. Rien. Rien du tout. Elle est pourtant là. Je la sens. Une espèce de tatouage indélébile. Rien de visible à l'œil nu ou à l'œil chaussé de lunettes spécialisées, grossissantes. Rien. Ce n'est certainement pas le genre de marque que fait graver sur O Sir Stephen dans Histoire d'eau. Je l'aurais senti d'une manière plus brutale. Je l'aurais senti pourtant. Ça m'a brûlé longtemps, ça brûle encore. Je ne sais pas encore si c'est le genre de brûlure qui consume en entier. Ça brûle lentement, confusément. Mon corps a été victime d'un incendie criminel. Mais il devait y avoir une marque, ta marque, celle que tu as mis tant de douceur à me faire, tant de gestes, jamais pareils. Je me souviens. Tu longeais mon corps. Tu cherchais l'endroit où la poser. Je me souviens très très bien. Tu avais la manie de toujours confondre ma peau avec de la soie. J'avais beau te reprendre, te dire que j'étais bien faite avec de la peau, tu ne m'as jamais vraiment cru. Peut-être que les marques tiennent moins bien sur la soie que sur la peau. Je cherche. Je commanderai une expertise s'il le faut à un expert en marques. Mais les marqueurs ne courent pas les rues. Je mettrai beaucoup de temps à en trouver un compétent qui saura déjouer ta subtilité, démêler le vrai du faux et découdre la soie juste au bon endroit. Elle est là, c'est certain. Il n'y a pas de raison que tu ne m'aies pas laissé au moins ta marque avant de partir. Il n'y a pas de raison que je vive sans marque. Il y a des chaudrons Le Creuset, il y a des bijoux chaudrons, il y a des livres Gallimard, il y a des poudres à récurer Ajax, il y a des jouets Tonka et Fisher-Price, il y a des chats persans. Il y a des chiens andalous, des femmes virago, des hommes gays, des filles seules, des enfants magnétophones, des jeux de hasard, des chansons prises dans la gorge, des mots sans suite, des larmes sans mouchoir, des morvonnés, des cris sans son, des yeux hagards, des sexes inutiles, des peines d'amour. Je n'ai même plus d'adjectifs à me mettre. Une fois, quand tu n'étais plus avec moi, je me suis caressée. Et quand j'ai joui, j'ai éclaté en sanglots. C'était à cause du vide qui venait de surgir de son trou. Un trou dans un trou. Rien. Et c'est à cause de ce rien que je me suis levée. Je suis allée au lavabo, me laver le visage et j'ai commencé à faire le grand ménage, en commençant par la cuisine, en commençant par le plus sale. Mal des profondeurs. Blues amer des sons de vinaigre. Blues long des plaintes enfermées, des sanglots de chats sertis de crocs, déplumés, sauvages, définitifs. Blues ombré des mots qui refusent de parler sous la torture, qui ne plient pas, qui pleurent sec dans mon cou. Je fais haut de toutes parts, je n'échappe pas au fiel, je n'échappe pas aux colères qui sucent d'un coup la sève qui gicle en torrent de chaque branche coupée. Je n'échappe pas à la saignée. Je n'échappe pas au vacarme des amours en garde triage, écorchés, qui pompent le vif à partir de chaque pore, de chaque trou où la mer en entier s'engouffre. Je n'échappe pas au déferlement des saveurs de varech qui montent à ma bouche. Je fais haut de toutes parts, fracassé sur un iris nègre. Je n'échappe pas au silence abandonné sans instruction au milieu du tumulte de la peau. Je n'échappe pas à l'ignorance des modes d'emploi. Un pis-aller, s'il vous plaît. Un aller-pise ? Non, un pis-aller. Je ne veux pas revenir. Vous voulez dire un aller pour pise ? Pas tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez à la fin ? Un pis-aller, parce que je n'ai pas mieux. C'est pourtant clair, non ? Vous vous foutez de ma gueule ? J'en serais désolée. Je veux un pis-aller. Je me demande si je peux avoir mieux, en fait. Mais si vous refusez de me donner un pis-aller, je n'aurai rien. Et là, il n'y a pas mieux. Elle est folle ? Au mieux, c'est un décrochage passager, au pire, c'est congénital. Voulez-vous un pis-aller simple ? C'est ça, Un pis-aller simple, ça se compliquera bien en cours de route. 875 francs. Prenez-vous les chèques de voyage? Nous prenons tout. Moi aussi. Alors donnez, merci. Nous sommes d'ailleurs. Nous ne sommes pas de ce monde parce que ce monde ne veut pas de nous. Qui est de ce monde? Nous sommes d'ailleurs, de là où les chants se chantaient sur des airs alanguis, mélopées moites, où poussaient des halos en fleurs aux têtes des gens aimés. L'occulte répondait à l'occulte avec ses mots de glaise et d'os. La lumière répondait à la lumière avec ses mots de miroir ouvert. Et de l'un à l'autre, le passage était large et achalandé. On y passait, on s'y croisait, on pouvait même s'y arrêter pour parler de tout et de rien. C'était comme ça, entre l'occulte et la lumière. Nous sommes d'ailleurs, de là où les mots se mangeaient et se dégustaient à petites bouchées, à petits morceaux fins, à petites lampées quand ils étaient liquides. Ils étaient parfois secs et croquants, parfois mous et humides. Parfois les deux, secs au dehors et humides au dedans. Il y avait de la texture ailleurs, d'où nous sommes. Il y avait aussi des fruits de la passion qui se greffaient au pied des tables, sous la main, quand le soleil était à un certain point dans le ciel, dans une saison qui correspondrait peut-être à l'été. Mais les saisons n'étaient pas arraisonnées, là d'où nous sommes. Il pouvait y avoir un morceau de glace au beau milieu d'un parterre de coquelicots. Ce n'était pas un drame. La glace ne fondait pas si elle ne le voulait pas. Et les coquelicots restaient rouges sans être brûlés de froid s'ils avaient décidé de ne pas prendre contact avec la glace. On pouvait alors choisir ce genre de choses. C'était comme ça, ailleurs.
Hélène, elle mettait en valeur les femmes qui la passionnaient. Autant Hélène était capable d'une impatience vigoureuse, autant elle était capable d'une écoute, l'intelligence de l'écoute d'Hélène qui nous faisait voir une femme par une autre fenêtre, par un regard qu'on n'avait jamais posé sur elle. Elle nous faisait découvrir l'essence même de la romancière, son entrevue avec Simone de Beauvoir, vous avez dû en entendre parler aussi.
Rencontre à l'heure bleue. Son turban bleu inspiré d'océan est piqué de restants d'étoiles de mer qui se souviennent de leur ancienne gloire de reine des abysses. La femme hésite depuis un moment à traverser un des bras épais de la place d'Enfer Rochereau. Elle n'a aucune confiance en ses jambes, ça se voit. Je la sens prendre une grande inspiration comme on prend appui et foncer droit devant, dans une avalanche de pas petits mais pressés. Elle est toujours pressée. Je l'observe depuis quelques mois, assise devant un grand crème au Lion de Belfort, derrière la vitrine qui donne sur le fauve figé au milieu de la place. Je viens passer là toutes les heures bleues, les unes après les autres. Quand je ne fais pas l'amour, je bois du café. C'est comme ça. Ou alors je fais une sieste. Quand j'ai connu cette femme avec mes yeux, je ne me suis plus séparée de mon appareil photo, enflée de son téléobjectif. C'est comme ça. Elle m'a donné envie de la capter. Je ne sais pas pourquoi, elle me fascine. Elle sort presque chaque jour, à la même heure que moi, comme si nous avions un rendez-vous strict. Elle est stricte, engoncée dans des vêtements pas très beaux, mais toujours maquillée. Une ancienne prostituée, je crois. De loin, même sans monter l'objectif, je peux voir la tache rouge de sa bouche et les taches mouvantes au bout de ses doigts, petites gouttes de sang qui coulent au milieu de ses gestes secs. Une ancienne prostituée, ou une vieille fille. Je ne crois pas, de loin, qu'elle pourrait être autre chose. Elle marche le corps droit, l'âge n'ayant pas trop figé le cou ni arrondi les épaules, parce qu'elle est vieille, très vieille. Difficile de donner un âge à partir de la sorte de ride. Certains enfants sont ridés. J'ai fait des gros plans. Ces rides à elles sont fines. Elles n'entrent pas en conflit les unes avec les autres comme ça se voit chez d'autres vieillards. Elles ne sont pas non plus creusées comme des sillons ouverts, impudiques. des coups de lame de rasoir donnés par un sadique qui ne saurait pas que la peau est quelque chose d'aussi délicat et que des ongles auraient suffi. Ou le temps, seul. Un sadique pressé. Non, ces rides à elle sont des cheveux qu'un enfant naissant aurait perdus dans un coup de vent et qui se seraient parsemés tout seuls sur sa peau. Ces rides sont comme ça. Elles ne sont venues que pour adoucir sa peau davantage, si ça se peut. Aujourd'hui, son turban est bleu. Mais ça dépend des jours. Elle en a toute une collection. Je vois ses cheveux au milieu, ils sont bruns. Teints, sans doute. Au soleil, parfois, j'arrive à saisir quelques fils blancs. Mais je les imagine, peut-être. Mes yeux sont la partie de moi qui a le plus d'imagination. Je dois leur accorder ça. Je les laisse faire. Ils ne font de mal à personne. Ses yeux sont comme des larmes de son turban, ce jour-là. Une brune aux yeux bleus. Une beauté. Certains jours, elle sort accompagnée d'une femme assez jeune qui la tient par le bras délicatement. J'en suis jalouse. Sa fille, sans doute. La fille d'un client qu'elle a dû mettre en nourrice pendant tout le temps qu'elle écumait la rue Saint-Denis. Qu'est-ce que je dis, la rue Saint-Denis? Elle avait certainement plus de classe. Sinon, elle ne se serait pas retirée à Montparnasse sur ses vieux jours. Une putain qui lit et qui comprend la guerre Iran-Irak, assurément. Ou si c'est une vieille fille, c'est peut-être sa nièce. Mais j'en doute. Une nièce aussi amoureuse, c'est rare. En tout cas, je n'en ai jamais photographié. Je pourrais la suivre si je voulais. Je la vois toujours disparaître derrière, là-bas, du côté de la petite rue Schulcher qui longe le cimetière. Aurait-elle choisi d'habiter à l'ombre d'un cimetière? Ce n'est pas son genre. Elle est tellement vivante, là. Pas très grande, rapide, vivace. Une immortelle ou un Edelweiss qui traverse les glaces, son petit sac serré contre elle. Je crois même qu'il est accroché à son cou. Je ne vois pas la bandoulière cachée sous son manteau de drap qui grimpe jusqu'au menton. Il y a eu des tas d'attentats contre les vieux dans le quartier. Un jour, elle a disparu pendant 10 jours. C'est ça, elle s'est fait attaquer. J'ai des photos d'elle avec un pansement blanc qui vient se perdre sous son turban vert. Oui, vert ce jour-là, ça m'avait frappé. Je m'étais dit alors qu'elle avait dû tomber dans l'escalier, qu'il devait bien y avoir un escalier dans sa vie, il y en a toujours. Et quand on est vieux, les escaliers sont des pièges à ours, comme la glace ou les crevasses dans les trottoirs. La ville devient une jungle, et il faudrait une machette pour y circuler à son aise tant il y a de lianes et de pièges qui font trébucher. Un calvaire. J'y pense parfois, pour moi. Je sais que les jambes deviennent des chiffres molles et qu'on se demande soudain où les os sont passés. Les muscles en coton, les os infidèles. Alors il faut être vigilant. Elle doit être distraite. Elle doit oublier parfois qu'elle est vieille. Et là, c'est l'attentat automatique. Qu'il vienne d'une main ou d'une crevasse, c'est du terrorisme. Je voudrais lui tenir le bras tout le temps. Remplacer ses jambes. Lui redonner ses os. Je voudrais la faire rire aussi. Il me semble que c'est une femme qui a beaucoup ri. Ça se voit. Et le pire, c'est qu'elle doit continuer, insolente, impudique. Le rire dans les rides a un petit côté profanateur, je trouve. Elle n'est pas du genre à se faire bronzer à la vapeur de camomille sur la promenade des Anglais à Nice, un mouroir. Elle se promène à Paris, dans la vie. Je la regarde vivre dans le miroir complexe de mon appareil photo et je veux la garder pour moi seule. Je ne vis pas dans l'illusion, je sais qu'elle n'est pas faite pour la photographie. Alors nous ne vivrons jamais ensemble. Je voudrais seulement que mes doigts puissent tuer la perspective, annuler toute distance et passer au travers du verre épais de l'objectif pour la toucher. Mes yeux glissent sur elle, sur sa peau douce. Je la caresse des yeux et mes mains sont inutiles, pétrifiées. Sur les photos, elle ne me regarde pas. Ses yeux contemplent la vie, la rue qui grouille de ses fourmis. Elle est une dame à noir qui les avale toutes. Je voudrais savoir ce qu'elle fait de toutes ses visions, de tout ce qui l'avale. 14 avril 1986. Aujourd'hui, à la radio, j'ai entendu qu'une femme célèbre était morte. Elle avait 78 ans, ont-ils dit. Elle avait écrit des tas de livres. J'ai su tout de suite que c'était elle à cause de l'intime entre nous. J'avais raison. Elle habitait rue Schulcher. Je me suis levée et j'ai brûlé toutes ses photos par respect pour sa mémoire. C'est mon anniversaire. J'ai 34 ans. Mais moi, je ne lis jamais. Je prends des photos. C'est comme ça, je n'irai plus au Lion de Belfort sans elle. Dorénavant, à l'heure bleue, j'écrirai. Ou je ferai une sieste. Ou je ferai l'amour. Et un jour, j'irai peut-être à la FNAC chercher ses bouquins. Mais c'est une grosse décision. J'ai besoin de temps. En attendant, j'ai découpé un article. Un seul. Avec une photo d'elle prise par quelqu'un d'autre. Je le garderai. La passion selon Simone de Beauvoir. On dira d'elle qu'elle est morte, qu'elle est décédée, qu'elle n'est plus. On dira ça. Mais il ne faudra pas le croire. On a déjà tellement dit de choses à son sujet. Un qualificatif de plus ou de moins ne fait aucune différence. On fera comme elle. On s'en foutra. Et on boira un verre quelque part avec des amis chers, comme elle. On oubliera les ragots, les surnoms. Notre-Dame de Sartre, la grande sartreuse, une horloge dans un frigidaire. Et on ne se souviendra que de l'amour, que de la passion, que des rires et des discussions âpres. Âpres, un mot qu'elle aime, qu'elle a utilisé souvent. Ça me revient en l'écrivant. Un mot qui ressemble à sa voix rugueuse, râpée, parce que les mots passaient trop vite de son esprit à sa bouche. Ils étaient précis, tranchants, et n'avaient pas le temps de sabler les cordes vocales. Ils écorchaient au passage. Et j'aimais ça. Je voyais de fins cailloux anguleux qui balisaient mon parcours et celui de bien d'autres, avant et après moi. Et j'aimais ça. J'aimais qu'ils deviennent phosphorescents dans la nuit, quand elle était trop noire et qu'on n'était pas sûr que le jour allait pouvoir se lever à nouveau. Il y a des nuits comme ça. On en connaît toutes. Simone de Beauvoir le savait aussi. Et c'est pour ça qu'elle a écrit des livres, contre la nuit noire qui reniait la lune, qui essayait de l'annuler. Simone de Beauvoir nous a donné la lune. Je crois que c'est ça qu'elle a essayé de faire. Et je me suis dit un jour qu'en dessous de cette exigence, il ne fallait rien tenter. Cette dernière phrase emportée me fait penser à Violette Leduc. Je suis venue au monde, j'ai fait le serment d'avoir la passion de l'impossible. Violette Leduc, que Simone de Beauvoir a poussée vers l'écriture qui la possédait. Elle l'a aidée à dompter la créature. Elle lui a répété sans relâche à quel point son écriture la touchait. Elle l'a présentée à son éditeur, lui a offert de préfacer La Bâtarde. Et Violette Leduc a écrit, publié. Simone de Beauvoir ne lui a pas donné l'écriture, elle lui a montré son écriture. Et l'écriture s'est abandonnée tout entière entre les mains de Violette Leduc. Simone de Beauvoir aura été la subtile entremetteuse, celle qui savait. C'est un exemple. Elle a toujours su beaucoup de choses. Chaque fois, elle s'est empressée de nous les faire savoir. Elle donnait l'impression de ne rien garder pour elle seule, que tout ce qu'elle apprenait pouvait servir à tout le monde. C'est l'impression qu'elle donnait, mais elle devait bien avoir sa zone d'ombre, ce lieu où le flou se colle aux parois intérieures comme une colonie de sangsues avides et qui nous rappelle à l'ordre au beau milieu d'un accès de rationalité. Vous voyez ce que je veux dire? Ce lieu exsangue qui doit ressembler aux limbes de notre enfance. Elle nous a caché ce lieu, mais elle y allait, j'en suis sûre. Elle nous a parlé de son lien avec Sartre, mais jusqu'à un certain point. Elle nous a bien prévenu d'ailleurs dans la préface de La force de l'âge, où elle dit quelque chose comme « Je ne vais pas tout vous dire, et de ma relation avec Sartre, vous ne saurez que ce que je veux bien vous en dire. » Ce n'est pas la citation exacte. Je ne veux surtout pas passer pour une spécialiste de Simone de Beauvoir. J'ai voulu écrire sur elle avec ma mémoire seule. J'invente, peut-être. J'interprète, sûrement. Elle ne serait pas fière de moi. Elle qui travaillait avec la rigueur d'une archéologue quand elle soulevait les strates de la condition féminine à travers les temps dans le deuxième sexe ou de l'âge dans la vieillesse. Tous ces livres sont près de moi. Je pourrais ouvrir La force de l'âge et vous servir la citation exacte. Non, je veux me souvenir d'elle par le cœur. Il s'agit d'une histoire d'amour, pas d'une thèse universitaire. Simone de Beauvoir, elle, était agrégée de philosophie à 21 ans. Moi, je n'y suis pas allée à l'université, comme Violette Leduc. Je ne m'en vante pas, j'essaye d'expliquer pourquoi je serais totalement incapable d'écrire une thèse et pourquoi la rigueur de Simone de Beauvoir m'a toujours fascinée. Quand je suis entrée dans « Les mémoires d'une jeune fille rangée » à 20 ans, personne ne m'avait prévenu que ma vie allait changer. J'ai mis du temps à me remettre du choc à cause de ça. Je ne me souviens plus d'ailleurs pourquoi j'ai lu ce livre à ce moment-là. Probablement parce que j'en avais besoin. Elle était toujours là quand on avait besoin d'elle. C'était une autre de ses qualités. Elle devait bien avoir des défauts, mais il faut drôlement bien connaître quelqu'un pour parler de ses défauts, ce qui n'est pas mon cas. Je ne la connaissais qu'à travers ses livres, 6 mois de travail intense pour préparer une entrevue avec elle, une courte lettre, 2 téléphones brefs et 2 heures de rencontre où j'ai pu vérifier que la femme que j'avais lue était la même que celle qui répondait à mes questions en cette fin de journée de fin décembre 1983. J'ai bien sûr gardé son petit mot précieusement, sa voix éraillée dans mes oreilles, son fin visage de chat aux yeux de Chine, ainsi que son regard bleu nuit dans mes yeux. J'ai tout gardé, y compris la douceur et la finesse de sa peau et la vigueur de ses gestes. Alors si moi j'ai gardé tout ça d'elle en moi, si chacune d'entre vous qui lisait ce texte avait gardé en vous une phrase, un mot, une action qu'elle a faite qui vous a impressionné, un ou plusieurs de ses livres dans votre bibliothèque, une discussion à son sujet, ou simplement une envie d'elle et de sa passion dévorante pour la vie, et si on se met à plusieurs pour le dire à voix haute, il est rigoureusement impossible, et nous le prouverons, que Simone de Beauvoir soit morte. Nota bene, chaque fois que le féminin est employé seul, il inclut bien sûr le masculin. Vous venez d'entendre un morceau de La douleur des volcans de Hélène Pedneau, ainsi que des éléments d'entretien avec Ariane Aymon et Ginette Noiseux. Redécouvrir Hélène Pedneau, une série de balados proposés par Marion Cousineau. Lecture, entretien et montage sonore, Marion Cousineau. Thème musical, Jean-François Groux.